On dit quoi? On dit c'est l'Afrique en solo. Hey!
Bonjour et bienvenue dans votre Afrique en solo. Tous ceux qui suivent de près les événements du continent africain ont certainement entendu les échos des grands rendez-vous qui s'y sont tenus ces derniers mois. Il y a eu entre autres la 5e édition du Forum international Afrique Développement en mars dernier à Casablanca au Maroc. Il était organisé par le groupe Atijarivafa Bank. En novembre, le 5e sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et ce sommet accueillait également le 6e forum des affaires UE-Afrique. Et enfin, le 30e sommet de l'Union africaine qui se déroulait en janvier à Addis Abeba en Éthiopie. Que pense donc la société civile ou les intellectuels de ces grandes messes? Laissons aujourd'hui la parole aux artistes et aux acteurs de terrain.
L'Afrique en solo, avec Soro Solo sur France Inter.
Vieux père, on commence par quoi?
Le Moro, la vérité rougit les yeux mais ne les casse pas. On commence par une de ces musiques lanceuses d'alerte.
On écrit au testament sur des feuilles blanches. C'est notre race sur terre. On est en 2013, Charlie. Mais en 2031, faut qu'ils comprennent. Trop loin pour eux. Trop loin pour eux. Spirituel cette musique, on blague pas avec. Tu vois? Mentalement castré, nos leaders n'ont rien de castro. Du glaçon, de la graisse, à la place du cerveau. J'ai des crampes aux miens, à force de penser à mon peuple. Putain de peuple, à force de penser à ce peuple, mon crâne se lézarde comme un œuf, explose comme une bombe. Un molotov cocktail, éparpille mes pensées dans l'univers comme les comètes et les galaxies. Les planètes et puis les molécules, les neurones dans le piment sont issus. On se jette dans l'au-delà et on se lave dans les cris du tonnerre. Avalé par le chaos, broyé, incinéré. On se repose dans nos caveaux, nos centres se mêlent à l'air comme cette fumée qui fuit nos lèvres pour disparaître dans la nature comme Ben Barka. Toi, lui ou moi, si t'es contre eux, leur putain de système. Les fantômes désertent les cimetières. Nos politiques ont la laine des lagunes de Lomé ou des ruelles de Tarkoradi. Croire aux chimères ou mourir, car nos cœurs sont tombés sous le charme de la méduse. Cœur sale et main pure. J'épure ma science dans les flammes du ciel. L'écriture comme exutoire, elle me donne des ailes. Et je plane dans ma tête en direction de Zion. Allons les renserrer avec mes lions. Il en existe encore. L'un de ces chiens, ces moutons qui tuent leur temps en broutant de l'herbe. Ma main Isimo, grâce à Dieu, portera la touche. Lui-même sait qu'on a besoin d'avocats comme Vergès ou Femi Felana. Mukelana et Mila Chayamu. Azole Rose, Mille Jav, Mal. J'ai du Grey Nyanator, Mim les coins macho. Mkwet, bon ami, on n'a que deux mains, 10 doigts pour bâtir des pyramides aussi solides que les squelettes de nos idéaux. Et ben dis-toi que la force est en toi. Quand le mal donne des coups violents dans les points vitaux, le diable s'élève contre nous comme le mur de la honte. Mais on l'écroule comme ceux de Jericho de Berlin, Nick Jean-Paul Guerlain et ces bâtards racistes qui courent les rues comme Romuald le Tonto, esclave des temps modernes. J'ai refusé de pleurer, je lève le peuple cop. Jésus-Christ. Des larmes de Christ. Des larmes de Christ. Car mentale est la castration.
Castration mentale. Le rappeur béninois et l'homme Vince ne passent pas par quatre chemins pour tirer à boulet rouge sur les leaders d'Afrique. Bientôt 60 ans que ces leaders ressassent la litanie de l'unité, du développement, de l'avenir de la jeunesse. Mais cette dernière attend toujours les promesses des indépendances et est convaincue que le continent a raté le coche du panafricanisme depuis la création de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, en 1963 à Addis Abeba en Éthiopie. Et à propos du dit panafricanisme, qui aurait dû être la clé de voûte du continent, Africa Unite du Dr Hamzat Boukari Yabara est très édifiant sur le sujet qu'il nous résume ici.
Alors brièvement, le panafricanisme, c'est un mouvement de libération qui est né à la fin du XVIIIe siècle dans les Amériques, notamment en Haïti lors de la révolution qui a eu lieu en 1791. C'est des Africains déportés du continent qui s'étaient libérés et soulevés contre leurs maîtres esclavagistes et qui avaient conquis leur liberté. Par conséquent, le panafricanisme, c'est un mouvement qui est anti-esclavagiste, qui est aussi anticapitaliste, puisque le capitalisme repose sur l'exploitation de l'homme par l'homme et l'exploitation des ressources de la nature jusqu'à leur extinction, la fin de leur capacité à se régénérer. Donc le panafricanisme est un mouvement de libération globale. Progressivement, il va également devenir un mouvement d'unification des peuples africains dans le reste du monde. Et progressivement également, à partir des années 1950, ça va devenir une doctrine d'unification politique du continent avec le fameux appel aux États-Unis d'Afrique qui va être lancé par Kwame Nkrumah. Donc le panafricanisme, c'est un peu toute cette longue histoire des peuples africains déportés qui cherchent à revenir sur le continent, un peu dans l'idéologie de Marcus Garvey, le Back to Africa Movement, et revenir sur le continent et libérer le continent et rendre l'Afrique aux Africains. C'est un concept d'actualité puisque l'on voit bien que l'Afrique est encore balkanisée et divisée par des intérêts impérialistes et étrangers. Par conséquent, il n'y a que en allant vers l'unité que l'on pourra s'en sortir. Donc cette unité, il faut arriver à la construire. Et pour la construire, il faut s'appuyer sur ce qu'ont fait nos ancêtres, tout en comprenant bien que le panafricanisme qui est né dans la diaspora ne signifie pas qu'il n'existait pas déjà de panafricanisme sur le continent. Les grands empires du XIIe, XIIIe siècle, l'empire du Mali, l'empire mandingue, les grands empires qui existaient même bien avant le royaume du Ghana, c'était déjà des formations multiethniques, des formations sociales extrêmement sophistiquées qui n'avaient absolument rien à envier aux États européens qu'on veut nous imposer aujourd'hui comme modèle et qui parvenaient à fédérer plusieurs groupes ethniques différents dans un même ensemble politique. Donc ce sont des choses qui ont existé, ce sont malheureusement des visions qui ont été effacées par la colonisation parce que la colonisation a mis en place un système d'aliénation mentale qui a rendu les Africains étrangers les uns aux autres et étrangers à eux-mêmes.
Hamzat Boukhari Yabara est historien et spécialiste de l'Afrique.
We're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans. Yeah, as it's been said already, children of the Rasta man, we are the children of the Aya man. Africa, unite, 'cause the children wanna come home. Yeah, yeah. Africa, unite, 'cause we're moving right out of Babylon and we're grooving to our I tell you who
unite.
Africa unite. Afrique, unis-toi, car nous déménageons de Babylone pour aller vers la terre de notre Père. Que c'était bon et plaisant. L'exhortation de Bob Marley a toujours du mal à se faire entendre sur le continent. Au sommet Union africaine-Union européenne en novembre à Abidjan, les principaux sujets étaient démocratie, bonne gouvernance et droits de l'homme, développement humain ou encore paix et sécurité. Comment l'Afrique peut-elle donc assurer son développement et sa sécurité si elle n'est pas unie, docteur Hamzat?
Les économies africaines ont été morcelées et complètement démantelées par un peu plus de 70 ans de colonialisme. Les économies sont restées parce qu'elles ont été validées par des bourgeoisies compradors qui sont arrivées au pouvoir au moment des indépendances, bourgeoisies soutenues par des régimes militaires ou bien souvent cooptées par des régimes militaires également liés aux forces occidentales impérialistes étrangères. Par conséquent, du point de vue économique, même la fameuse croissance du continent africain qui fait tant rêver les observateurs du monde entier, c'est une croissance qui ne correspond pas à la réalité des besoins et des capacités du continent africain. La jeunesse africaine est bridée dans sa capacité d'initiative. Les multinationales étrangères qui fabriquent la croissance sur le continent africain continuent à exporter les fruits de cette croissance vers les banques occidentales. Donc c'est tout un problème de division internationale du travail qui maintient l'Afrique dans une situation subalterne qui ne peut plus durer. Nous voyons bien que nous n'avons pas d'infrastructure de base. Les écoles, les universités, notamment les universités, il faut les panafricaniser. La question de l'université est éminemment importante parce que c'est dans l'enseignement supérieur que l'on construit l'élite d'une nation. Or, aujourd'hui, nous voyons même que l'élite africaine est contrainte à aller se former à New York, à Londres, à Paris ou ailleurs. Par conséquent, il est important de comprendre que l'enseignement supérieur, c'est un enjeu de souveraineté stratégique, un enjeu de souveraineté nationale. Et par conséquent, il est nécessaire que les États africains se mettent ensemble pour créer de grands pôles de développement scientifique, culturel et industriel qui permettront d'utiliser les compétences des Africains et d'éviter que les Africains qui sont brillants dans tous les domaines qui existent n'aillent exercer leurs talents ailleurs et mettre au profit des autres leur expérience.
La thèse de doctorat en histoire et civilisation de l'Afrique de Hamzat Boukare Yabara interroge les divers aspects du panafricanisme et des mouvements révolutionnaires contemporains à partir de la biographie politique et intellectuelle de l'historien guyanien Walter Rodney. Son ouvrage « Africa Unite, une histoire du panafricanisme » est sorti chez La Découverte en 2014.
I'm
Alpha Blondie, Black Man's Tears. Le fleuve des larmes des Noirs est en permanence en crue. On ne compte plus les familles qui pleurent un fils mort en tentant de gagner l'Europe dont les frontières se ferment à double tour. Et pourtant, les assises de l'Europe et de l'Afrique causent toujours de partenariats. Pour l'écrivaine sénégalaise Fatou Diom, c'est un partenariat qui questionne.
En ce moment, on parle beaucoup du partenariat Europe-Afrique. Ça passera par une révolution des mentalités. Celui à qui vous demandez la charité, vous ne pouvez pas le tutoyer. Celui à qui vous demandez la charité, vous ne pouvez pas lui imposer des règles. Celui à qui vous demandez la charité, vous baissez la tête devant lui. Et quand nos dirigeants baissent la tête, les peuples se mettent à genoux. Alors moi, je veux une Afrique qui lève la tête, qui, à la table des négociations, regarde l'Europe et dit, tu sais quoi? On a passé des siècles à fricoter ensemble. On se connaît tellement. On se déteste comme dans toutes les grandes relations. Mais on va faire des affaires avec éthique pour respecter nos peuples. L'Europe n'est pas digne quand elle exploite l'Afrique pour le bien-être de son peuple. Ce n'est pas éthique. Et le peuple européen ne doit plus l'accepter. Et l'Afrique n'est pas digne quand elle se plaint tout le temps et que le peu de richesse qu'elle a, certains l'utilisent pour leur propre compte et laissent le peuple démuni. Ce n'est pas éthique non plus. Si le partenariat est une association en vue d'agir pour un bénéfice commun, je suis d'accord. Mais il est évident que pour l'instant, c'est l'Europe qui mène la danse. Donc si vous voulez danser avec moi, on doit organiser nos pas et nous entendre doucement. C'est une conciliation. Ce n'est pas une domination, ce n'est pas un contrôle. Ce n'est pas une tutelle. C'est une conciliation. Si le partenariat Europe-Afrique consiste simplement à imposer aux pays africains des accords soucieux des seuls intérêts européens, ce ne serait pas un partenariat, ce serait un contrat léonin, donc inacceptable. Ce serait même plus hypocrite que la colonisation. Il s'agit donc de rendre son plein sens au mot partenariat. Si l'Europe veut aider l'Afrique vraiment, il faut sortir de la condescendance et de la supposée aide pour un vrai et juste, transparent partenariat.
On est bien sur France Inter et nous sommes avec Fatou Diom. Elle est affirmative. Il faut un partenariat transparent et équitable de l'Europe avec l'Afrique. Mais pour que les dirigeants africains parlent d'égal à égal avec leurs interlocuteurs du monde, ils doivent se distinguer par leur union, par leur probité, par une gestion rigoureuse de leurs États et compter sur elles-mêmes. Fatou Diom.
L'Afrique ne peut pas tout attendre de l'Europe. Et moi, j'en ai assez quand je parle avec des Africains. Souvent, on me dit, l'Europe doit nous aider. L'Europe doit nous aider. C'est comme si j'étais dans la maison de mon père et je dis que le voisin doit me nourrir. Je sais bien qu'il y a des torts que nous devons reprocher à l'Europe. Mais 3 siècles de reproches ne changeront pas notre destin. Donc, chercher un coupable extérieur ne changera pas notre destin. Si ma maison brûle et je reste là et je dis, quelqu'un a jeté une allumette, ma maison brûle, quelqu'un a brûlé ma maison, quelqu'un a brûlé ma maison. 3 saisons après, je serai encore sous les étoiles. Donc oui, l'Afrique peut reprocher des choses à l'Europe. Oui, mais les défaillances de nos dirigeants d'aujourd'hui, nous ne pourrons pas les justifier, les légitimer uniquement en accusant l'Europe. Ce serait nous mentir à nous-mêmes. Nous sommes en Allemagne. Ce pays, après la guerre, était démoli, un tas de pierres. Aujourd'hui, on a des frères qui risquent leur vie pour y vivre. C'est parce que les Allemands ont travaillé pour ça. On ne peut pas seulement les accuser, on peut aussi prendre un exemple sur eux. Et je sais que quand on fait une autocritique à l'Afrique, les gens n'aiment pas. Mes frères m'applaudissent quand j'accuse l'Europe. Et puis quand je fais notre autocritique, je deviens la mauvaise. Mais je suis en même temps les deux. La fille qui peut regarder les fautes de l'Europe, mais la fille qui dit, si je veux que ma voisine européenne me respecte, si je veux parler avec elle d'égal à égal, je dois arrêter de demander la moitié de son salaire pour gagner le mien.
La romancière Fatou Diom est franco-sénégalaise. Elle compte une dizaine d'œuvres. C'est Le ventre de l'Atlantique, roman sorti aux éditions Annie Carrière en 2003, qui l'a révélé au plus grand nombre et lui a valu la notoriété internationale. Le roman explore les thèmes de l'immigration en France et de la relation entre la France et le continent africain. Et sa dernière œuvre, Marianne porte plainte, est un essai sorti en 2017 chez Flammarion. Elle traite entre autres de l'instrumentalisation de la laïcité et met l'accent sur l'éducation, un des principaux piliers de nos sociétés.
L'union, le rassemblement de tout le peuple congolais.
Bayaka, Bakuni, Bafili, Bansangi, Babembe, Bateke, les Mbochiers, les noms cités mbotés.
Du nord au sud,
est-ouest, l'union
contre les bons, la attitude.
Car jour devient
l'atmosphère où les médias sont rudes.
Divisé pour mieux régner, mais
vivre en unité, voilà ce que l'Afrique voudrait.
On fait pour la communauté.
Bandoula, Bandoula.
Ouais, tous dans la même galère, ma colère a l'air libre. Tout travail mérite salaire, je vibre. Quand mes frères boxent pour un bout de territoire.
Ouais, dans la main, pour exploser l'histoire.
Y'a trop de boycott, des règlements de compte.
Les gens veulent les larmes à la place des mots. Bisson à bisson, bisson sont pour la démo.
Plus de kilos de poing dans mon flow.
Grâce à l'union Tintouari, je souhaite que je soigne mon beau Congo.
Bantouna,
Bissot vous disent d'arrêter ce masque.
N'est pas un pays de cobras, de ninjas, de nippos. Tous les mêmes négros,
tous pour un seul Congo.
Rappé, le vipa m'envoie, baigna bousso. Papa si y'a que de kena poussou, nous a tapé nos la guerre. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Merde contre la boîte, guerre, y'a bousso.
Ring ding ding, pour toutes les familles qui triment, qui combattent la misère, les souffrances qui les abîment.
Je mettre un pince, mince, que personne ne coince. Poser dans un gang dans le soir et jouer les princes.
Plus moyen de marcher dans les rues,
d'éviter les balles perdues.
Rentrer dans un pays tranquille,
une femme j'ai connu.
Bantouna, Bantouna.
Cette Afrique que chante Bissot Nabisso à travers son Congo d'origine passera le cap des 2 milliards d'habitants d'ici 30 ans. Et cette Afrique compte environ 720 millions de moins de 25 ans. Cette jeunesse ne croit plus en ses dirigeants. La dernière décennie a été particulièrement marquée par les mouvements de contestation des pouvoirs en place avec plus ou moins de succès par endroit. On pense encore au printemps arabe, au mouvement Yanamar au Sénégal ou au ballet citoyen au Burkina Faso. Le désespoir des jeunes générations le pousse à risquer sa vie pour gagner l'Europe. Des sommets et des forums de développement durable, il en pleut en Afrique. Mais pour quels résultats? L'Afrique devrait d'abord s'unir et penser par elle-même et pour elle-même. C'est cette réflexion qui transparaît dans Afrotopia de l'universitaire sénégalais Felwine Sarr.
Le continent africain, bien sûr, dans sa diversité, peut-être qu'il est temps qu'il reconvoque une réflexion sur comment il envisage son futur. Donc, comment il articule les métaphores de son propre futur. Donc, bien sûr, c'est une réflexion sur le présent, une réflexion sur le politique, le culturel, l'économique, le symbolique. Mais généralement, le continent est sous injonctions. On lui demande de se développer, on lui demande de rattraper un retard, on lui demande d'approfondir sa démocratie, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il me semble qu'il y a une panne dans une production autonome et endogène des métaphores de ses futurs. Pour qu'elle redevienne sa lumière propre, probablement doit-elle le s'arrêter 5 minutes et se dire quel type de société elle a envie de mettre en œuvre, quel est son projet, quel type d'individu, quel type d'équilibre entre les différents ordres, ce que j'appelle les différents ordres, c'est l'économique, l'écologique, le culturel, le symbolique, et quel type de projet elle a pour sa propre humanité à elle et pour l'humanité des autres. En gros, Afrotopia, c'est ça, c'est une utopie active, une tentative de réfléchir et de se projeter et de donner du sens à une aventure civilisationnelle, humaine, sociétale, qui remet l'homme, je dirais, au cœur de son projet.
Agrégé des universités, Felwyn Sarr enseigne à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal depuis 2007. Ses cours et travaux académiques portent sur les politiques économiques, l'économie du développement, l'économétrie, l'épistémologie et l'histoire des idées religieuses. En 2010, il est lauréat du prix Abdoulaye Fatiga pour la recherche économique.
La vie, oh yo, la vie m'a manqué. La vie est chemin d'expérience. La vie est chemin d'expérience. À chacun sa cadence. Danse, danse ta vie, oh bah, oh achanga bah, oh noa. Et qu'à tristesse, si on t'y allait, oh maman. Tristesse un dia. Avant que ton corps se mette à causer, warende, akala wawane. Danse, danse ta vie, oh ba, oh achanga ba, wa ondoa. Come on, swing, swing, swing ta vie, oh mama. Chaque instant ta vie, oh. Prends la leçon ta vie. Kakoleri hundi ale o mama, eh kakoleri hundi ya. Avant ton corps se mette à causer, warende akala wawane. Pardonne, pardonne ba, o achanga ba o noa. Come on, swing, swing, swing ta vie, o mama. Chaque instant ta vie, o.
Les temps sont durs, les temps sont durs. Mais c'est pas Caillou, c'est pas Piquant, c'est nous-mêmes.
On est toujours sur France Inter et on vient d'écouter la Comorienne Nawal qui nous dit que la vie est un chemin d'expérience, à chacun sa cadence. Et les dirigeants d'Afrique devraient méditer ces paroles et celles de l'économiste sénégalais Felwyn Sarr. Si la marche à suivre pour le développement ou la démocratie du continent est dictée de l'extérieur, on ne fera que du copier-coller. Et ce n'est pas dit que c'est ce mimétisme qui nous sortira de l'auberge. Et pourtant, il y a par-ci, par-là, des expériences d'acteurs particuliers, porteurs de projets à la limite du miracle. Je pense à Godfrey Nzamujo, qui a créé dans les années 80 la première ferme Songhai dans la région de Porto Novo au Bénin. Il a choisi le nom Songhai en référence au prestigieux empire fondé au XIVe siècle en Afrique de l'Ouest. Implantée sur un marécage d'1 hectare en 1985, la ferme de Songhai est devenue en quelques décennies un complexe de production agricole et de formation de 4 hectares. L'ONG compte un réseau de plus de 40 000 personnes, 500 fermes gérées par les jeunes formés au centre de Songhai, répartis sur tout le territoire. L'électricité de la ferme est alimentée par le biogaz produit sur place.
Nous sommes en train de faire le mélange de fiance avec la jacinthe d'eau pour donner un bon rendement de gaz. Quand on charge le digesteur avec, ça se décompose. Quand ça se décompose, ça produit le biogaz. À la fin, tout ce gaz nous permet d'alimenter, de démarrer un générateur qui produit de l'électricité.
L'idée de Godfrey est simple. Tout produire sur place de façon durable en limitant au maximum le gaspillage. Ainsi, toute la ferraille de la ferme est refondue pour fabriquer des outils agricoles, voire même des pièces de rechange de véhicules. Et pour Godfrey Ndamoujo, la mécanisation est aussi une priorité.
Ce système intégré attaque en même temps tous les défis du développement. Cette idée va nous aider à changer notre manière d'organiser la société, d'organiser les industries. Toutes les chaînes sont rétablies, tout. Partie du micro-organisme jusqu'à l'homme, on travaille en synergie. Et c'est ça qui va nous amener à la durabilité, l'organisation de l'industrie.
L'ONG Songhai, c'est un centre de formation, de production, de recherche et de développement en agriculture durable. Objectif, relever le niveau de vie des populations pour un développement social et économique durable. Godfrey Ndamoujo a étendu son projet sur plus de 17 pays en Afrique. Il a reçu l'appui du secrétaire général des Nations Unies comme modèle de développement pour l'Afrique. Un projet grandiose comme Songhai, s'il était pensé et réalisé par les 55 États d'Afrique, qu'est-ce que ça serait ? Violente question.
On avait trop gazé à Abidjan. Mais je ne me suis pas gêné. J'ai même un grand jardin potager. Tout ce que j'achetais très cher au marché de Cocody, à Trècheville, à Djamé, me revient gratuitement en quantité débordante. Je chope même à la TVA. Mes amis, dans mes sens, il y a tout. À Goudio,
ça passe.
À Pagno,
ça passe.
Rao,
ça passe.
Macharo,
ça passe.
Tout ceci, arrosé d'un bon bandit frais. Mais je ne vous ai pas encore tout dit. Ma puissance financière actuelle, c'est le cacao, le café et le coton. Descendent me voir au village. Nombreux sont ceux qui viennent m'emprunter de l'argent. Ils sont de plus en plus à mes ordres. Et oui, je remercie Nana Okoboani de nous avoir passé ce précieux message. Ah, mon ami, je suis en état. C'est le retour à la terre.
La chanson « Retour à la terre » a été enregistrée en 1988. À l'époque où Fouad Boigny, le président de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, face au taux de chômage croissant dans son pays, avait lancé une campagne pour inciter les jeunes au retour à la terre. Et le projet n'avait pas été suivi d'une véritable politique d'accompagnement offensive. Et pourtant, les statistiques affirment que le pays de Fouad Boigny, la Côte d'Ivoire, dispose d'assez de terres fertiles pour nourrir 65 millions de personnes. Il n'en compte que 25 et la Côte d'Ivoire importe du riz de Chine. Ce sont ces échecs ou les échecs de certaines politiques des Afriques qui poussent les jeunes à escalader les murailles des frontières européennes.
Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Encore un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté.
Pour de bon, on veut partir d'ici quand nous sommes tous en train de péter les plans.
aux plages et leur sable doré. Mille animaux en cage et battu nos forêts. Qu'est-ce qui nous reste quand on enlève vite? On se prépare au voyage et on se jette dans l'eau vide. Non, 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 non.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Ouvrez les frontières. L'injonction de Tiken Jaffa Coli est partagée par plus d'une personne. Car tous les Africains candidats au voyage en Europe ne sont pas tous des migrants économiques. On m'a conté l'exemple d'un médecin francophone de 45 ans qui s'est vu refuser le visa d'entrée en France alors qu'il remplissait toutes les conditions. La lettre d'inscription à Paris 7, la lettre d'accord du chef de service qui l'accueillerait, le billet d'avion aller-retour, l'adresse fiscale à Paris, ce qui veut dire une prélocation avec bail, l'assurance de rapatriement, les dizaines de milliers d'euros en traveler chèque, prouvant qu'il avait les moyens de subsistance en France. Malgré tout ça, on lui a refusé le visa.
Batiman wari tesoro bansana kona umbora fasola mwanga umbita faransi faransi o wari tesoro bansana kona umbora fasola mwanga umbita esipai esipai o wari tesoro tonjilako.
Pas facile, gagner l'argent français. l'argent français, bosser, bosser, pas facile, gagner l'argent français.
On est bien sur France Inter et aujourd'hui, l'Afrique en solo cause de développement, de politique inachevée, de frustration d'une jeunesse africaine qui n'en peut plus d'être sur les trottoirs rugueux de la vie, de difficultés à passer les frontières. Mais rassurez-vous, le tableau n'est pas toujours sombre et nauséabond. Il y en a qui réussissent à voyager et à transformer leurs rêves de gamins en réalité. Voyez le cas du Sénégalais Baïla Ndiaye par exemple. Son grand-père était l'un des premiers mécaniciens de Thiès. Et comme tous les gamins de son âge, Baïla bricolait tous ses jouets. Particulièrement porté sur la fabrication des voitures avec des fils de fer, il s'est juré d'en inventer une vraie quand il deviendrait grand. Après son cursus scolaire dans son pays et universitaire en France, il s'est lancé dans l'ingénierie. Parallèlement à son travail d'ingénieur à Dürdenheim en Alsace, une entreprise spécialisée dans la maintenance électronique avec une branche qui réfléchit et conçoit des solutions techniques en direction des pays du Sud, il se lance dans la matérialisation de son rêve d'enfant et crée sa première voiture baptisée Singeli et aussi Baïla 66.
Singeli est la petite voiture de mon enfance. Très très jeune, j'ai fabriqué des voitures avec... Des fils de fer. Voilà, ce sont tous ces jouets que nos parents ne pouvaient pas acheter et qu'on a fait nous-mêmes. Singeli, c'est la voiture de mon enfance qui a grandi avec moi, avec le savoir et le savoir-faire que j'ai acquis tout au long de ce parcours vers la lumière et la connaissance. C'est une injection électronique pilotée par un calculateur. Voilà. Je préciserai que c'est un moteur de moto. Hein. Elle est articulée autour d'un moteur BMW K75 moto à injection électronique pilotée par un calculateur. C'est une direction directe par transfert d'angle à assistance hydraulique variable. C'est à peu près tout ce qu'on trouve dans les voitures modernes. C'est une bombe. 180 en vitesse de pointe. Elle est très très agile dans les portions sinueuses. Voilà, je l'appelle Baïla. Et 66, c'est un chiffre qui me colle à la peau. Je ne sais pas pourquoi, depuis tout jeune, ce chiffre m'accompagne partout. Je le retrouve dans l'immatriculation de mes voitures, je le retrouve dans le numéro de ma chambre d'étudiant, je le retrouve dans mes numéros de téléphone. J'en ai fait mon chiffre fétiche. Donc Baïla 66. Il a fallu briser tous les verrous psychologiques et mentaux de cette Afrique malade des sévices endurés pendant des siècles qui a perdu l'estime d'elle-même. De toute façon, il n'y a pas d'émergence sans machine. Des machines existent, mais nous ne pouvons pas les acheter. Ou bien, on reste prisonnier dans le cercle vicieux de cette dette qui n'enrichit que le créancier. Nos machines, nous devons les concevoir nous-mêmes. Personne ne viendra développer votre pays à votre place. Personne n'y a intérêt. Si vous êtes capable d'intelligence, il faudra le prouver pour s'affranchir. Sinon, acceptez la domination et se taire.
Il faut présenter. Voici là.
Singeli.
Et voilà, chers auditeurs de France Inter, vous êtes les privilégiés à entendre la démonstration de Singeli ou Baïla 66. Baïla Ndiaye est un homme déterminé. Son exemple devrait être le mot d'ordre de chaque Africain pour entretenir la flamme de la création, de l'inventivité, de la productivité. Et c'est en semant les graines de l'espoir qu'on ouvre le champ des possibles. C'était Salif Keita et ambassadeur international. En collant aujourd'hui à l'actualité des en haut, entendez les grandes personnalités qui se réunissent régulièrement pour trouver les remèdes de nos blessures. On a pensé qu'il était opportun aujourd'hui de donner la parole à quelques individualités sans brassard politique et qui ont bien souvent des propos nettement plus engageants que ceux qui sont censés trouver les solutions de nos existences. Si leur avis a retenu votre attention, vous nous envoyez très heureux.
Hey, on dit quoi?
On dit c'est l'Afrique en solo.
Hey!
Chers auditeurs, c'est le moment de vous demander la route. Alexis Goyer m'a aidé à préparer cette édition. Elisabeth Colette a assuré la technique. Coin Guyen l'a réalisée. Vous pouvez garder le contact avec nous sur notre page Facebook et trouverez toutes les références de la programmation musicale et la réécoute de l'émission sur franceinter.fr, page de l'Afrique en solo. On se retrouve dimanche prochain, toujours à 22h sur France Inter.